de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Saya Zerita Bongsoir, voici le journal, nous commençons avec les titres. L'Indonésie invite la PT à être plus fort face aux défis mondiaux. L'Union européenne reconnaît le rôle de l'ASEAN dans le monde. L'ASEAN et la RPC conviennent des lignes directrices pour accélérer les négociations sur le code d'éthique en mer de Chine méridionale. L'Indonésie invite le Japon à développer un écosystème de véhicules électriques dans l'ASEAN. La France déploie des milliers d'agents des forces de l'ordre pour sécuriser les célébrations du 14 juillet. Voici le journal complet. ASEAN plus 3 ou APT est un point d'ancrage depuis 25 ans pour faire face aux défis de la région. En fait, selon la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, l'APT a toujours résisté à toutes les instabilités, chocs et crises possibles. Pour cette raison, lors de l'ouverture de la réunion ministérielle de l'APT jeudi 13 juillet à Jakarta, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a invité l'APT à veiller à ce que cet ancrage soit plus fort face aux défis mondiaux.
Today we must ensure that this anchor of ours.
Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que notre ancrage puisse devenir encore plus fort pour surmonter les défis mondiaux qui sont pleins d'incertitudes. Afin de garantir que l'APT soit forte pour faire face aux défis mondiaux, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné l'importance d'assurer la stabilité dans la région en défendant le paradigme de la collaboration, en maintenant la paix et la sécurité, en respectant le droit international et en poursuivant l'esprit du multilatéralisme. Dans le secteur de la résilience, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné l'importance de consolider les mécanismes pour renforcer la résilience des pays APT. Elle a également encouragé l'initiative de Chiang Mai, un accord de sens multilatéral, à agir rapidement et efficacement en réponse à la crise financière. Les réserves de riz de l'APT doivent également être augmentées pour surmonter les futures perturbations de l'approvisionnement alimentaire.
APT must be part and parcel of ensuring our region.
L'APT doit faire partie intégrante pour garantir une région résiliente face aux crises qui peuvent survenir à tout moment. En outre, Retno Marsudi a également souligné l'importance de l'aspect de la durabilité. Pour cette raison, selon elle, l'APT doit être plus innovante pour s'adapter aux changements climatiques, réduire les émissions et accélérer la transition énergétique. À cet égard, Retno Marsudi a proposé qu'APT puisse entamer une coopération dans le développement de l'écosystème des véhicules électriques. Dans le cadre de la réunion post-ministérielle 2023, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, à Jakarta jeudi 14 juillet. Au cours de la réunion, Borrell a reconnu le rôle de l'ASEAN en tant qu'acteur mondial clé de ce siècle, en particulier au milieu des rivalités et des crises mondiales en cours. Par conséquent, à l'avenir, l'Union européenne souhaite construire une coopération plus productive avec l'ASEAN.
Our similarities and the lessons learned from our first 2 years as a strategic partners.
Nos similitudes et les enseignements tirés de nos 2 premières années en tant que partenaire stratégique ont ouvert la porte à une coopération plus approfondie et plus productive. Et je suis personnellement fortement engagé dans cette coopération entre l'Union européenne et l'ASEAN. Josep Borrell a en outre déclaré que l'Union européenne soutient également l'importance du respect du droit international, en particulier en ce qui concerne les questions de l'Ukraine et de la mer de Chine méridionale. Borrell a également souligné le soutien à l'approche de l'ASEAN pour résoudre le problème du Myanmar. L'ASEAN et la République populaire de Chine, RPC, conviennent de lignes directrices pour accélérer les négociations sur le code de conduite COC en mer de Chine méridionale. Les lignes directrices ont été adoptées lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avec le directeur des Affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi, à Jakarta, jeudi 13 juillet. Dans son allocution d'ouverture, la ministre des Affaires étrangères Retno a déclaré que la Chine était un partenaire important pour l'ASEAN dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région Indo-Pacifique depuis plus de 3 décennies. Elle a déclaré que cette année, la relation entre les deux était importante dans l'histoire, à savoir l'achèvement des lignes directrices pour accélérer les négociations efficaces et substantielles du COC, l'achèvement de la deuxième lecture du projet unique des négociations du COC, ainsi que le 20e anniversaire de l'adhésion de la Chine au traité d'amitié et de coopération TAC.
This achievement should continue to build positive momentum.
Ces réalisations devraient continuer à créer une dynamique positive, renforcer un partenariat qui fait progresser un paradigme d'inclusivité et d'ouverture, respecte le droit international, promeut l'habitude et la collaboration. Sur le plan économique, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN. Vice-versa, l'ASEAN est le plus grand partenaire commercial de la Chine. Retno Marsudi a déclaré que le commerce entre les deux avait atteint 975 milliards de dollars américains. La RPC est également la 4e source d'investissement étranger pour l'ASEAN avec une valeur de 13,8 milliards de dollars américains en 2021. Selon elle, les deux parties doivent travailler dur pour renforcer le partenariat. La Chine doit être un partenaire de confiance de l'ASEAN pour maintenir une architecture régionale ouverte et inclusive. La ministre des Affaires étrangères Retno a également demandé le soutien de la Chine pour la mise en œuvre concrète des perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, AOIP, y compris les plans pour organiser le Forum Indo-Pacifique de l'ASEAN, AIPF, en septembre prochain. L'Indonésie invite le Japon à travailler ensemble pour développer l'écosystème des véhicules électriques dans l'ASEAN. Cette déclaration a été faite par la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi lors de la réunion ASEAN Japan Post Ministerial Conference PMC à Jakarta jeudi 13 juillet. Il a déclaré que le Japon était en transition vers des véhicules 100% électriques en 2035 et souhaitait devenir un leader de l'industrie des véhicules électriques. L'ASEAN est le bon partenaire du Japon pour le développement de batteries de véhicules électriques. Retno Marsudi a ajouté que le Japon pourrait soutenir cette collaboration, notamment par le biais de fonds d'innovation verte. Selon Retno Marsudi, l'écosystème des véhicules électriques apportera non seulement la prospérité à la région, mais rapprochera également l'ASEAN d'une société sans carbone. La France déploie environ 130 000 agents de force de l'ordre pour sécuriser les célébrations du 14 juillet. C'est ce qu'a annoncé le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cité par l'agence de presse Anadolu. Le gouvernement français a souligné que cette décision visait à assurer la sécurité en empêchant d'éventuels émeutes. Darmanin a rappelé que 55 membres des forces de l'ordre ont été blessés et que 807 personnes ont été arrêtées et 750 véhicules ont été incendiés lors de la célébration du 14 juillet l'année dernière. En plus des forces de l'ordre, environ 34 000 pompiers sont également déployés avec des hélicoptères et des véhicules blindés en soutien. Ces retards, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous, voici le commentaire d'aujourd'hui dont le titre est « L'Arabie Saoudite signe un traité d'amitié et de coopération avec l'ASEAN ». L'Arabie Saoudite a signé un traité d'amitié et de coopération, ou en anglais « Treaty of Amity and Cooperation » ou abrégé en TAC, avec l'ASEAN mercredi. Le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan, a signé le traité ou l'accord lors d'une cérémonie en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Jakarta. L'Arabie Saoudite est le 51e pays à signer le TAC avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou la NASE. Le ministre des Affaires étrangères, Red Nomar Soudi, a déclaré qu'en signant le TAC, l'Arabie Saoudite s'était engagée à travailler ensemble et à collaborer avec l'ASEAN. En outre, l'Arabie Saoudite s'est également engagée à respecter le droit international et à contribuer à la paix et à la stabilité en Asie du Sud-Est. Red Nomar Soudi a estimé que l'engagement de l'Arabie Saoudite envers les valeurs et les principes de l'ASEAN est très important dans la dynamique géopolitique actuelle. La signature du TAC a marqué l'expansion continue des relations entre l'Arabie Saoudite et l'ASEAN, qui entretenaient depuis longtemps de bonnes relations. Bien qu'il existe parfois des tensions dans les relations avec plusieurs pays d'Asie du Sud-Est en raison de la question de la protection des droits des travailleurs étrangers. Cependant, cela n'est pas devenu un obstacle aux relations amicales entre l'Arabie Saoudite et l'ASEAN. L'une des preuves de l'amitié de l'ASEAN et l'Arabie Saoudite, entre autres, s'est manifestée en pleine crise soudanaise. l'Arabie Saoudite a aidé à évacuer des milliers de ressortissants de l'ASEAN des champs de bataille de la guerre civile soudanaise. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Jakarta, Faisal bin Abdullah Al-Amoudi, a déclaré que l'évacuation était la preuve des liens étroits de Riyad avec de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. D'un point de vue social et culturel, l'Arabie Saoudite et l'ASEAN sont relativement proches, d'autant plus que l'Asie du Sud-Est est l'une des régions avec la troisième plus grande population musulmane au monde, avec la majorité en Indonésie, Brunei et Malaisie. Pendant des décennies, l'Arabie Saoudite a versé des fonds à divers pays d'Asie du Sud-Est pour la construction et le développement de mosquées et l'éducation islamique. Les musulmans d'Asie du Sud-Est sont également l'une des principales sources de devises pour l'Arabie Saoudite grâce au Hajj et à la Umrah. Dans le secteur du commerce, l'Arabie Saoudite gagne beaucoup de devises grâce aux activités commerciales avec les pays d'Asie du Sud-Est. L'Arabie Saoudite fournit principalement du pétrole et du gaz naturel à l'Asie du Sud-Est. Environ 78% du pétrole brut de l'Arabie Saoudite est expédié aux pays asiatiques, y compris l'Asie du Sud-Est. Les relations amicales entre l'Arabie Saoudite et l'ASEAN, qui existent depuis longtemps, devraient s'intensifier dans divers domaines après la signature du TAC. L'Arabie Saoudite devrait pouvoir l'utiliser pour maintenir la paix, construire une coopération inclusive et faire face aux défis qui surviennent dans la dynamique géopolitique. C'est le commentaire d'aujourd'hui.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 juillet. Le 14 juillet 1945 et le concept de la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie a été lancé. Le 14 juillet 1945, la réunion plénière de l'organe d'enquête pour les efforts préparatoires à l'indépendance de l'Indonésie a reçu le rapport du comité de rédaction de la loi fondamentale lue par Sukarno. Le rapport contient 3 questions principales, à savoir la déclaration d'indépendance de l'Indonésie, le préambule de la Constitution et le corps de la Constitution. Le concept de la proclamation de l'indépendance devait être élaboré en reprenant les 3 premiers paragraphes de la Charte de Jakarta. Il contenait « En fait, l'indépendance est le droit de toutes les nations et à cause de cela, le colonialisme dans le monde doit être aboli, car il n'est pas conforme à l'humanité et à la justice. » Et la lutte pour le mouvement d'indépendance indonésien est arrivée à un moment heureux, livrant le peuple indonésien en toute sécurité à la porte d'entrée d'un État indonésien indépendant, uni, souverain, juste et prospère. Par la grâce de Allah le Tout-Puissant et poussé par un noble désir afin qu'une vie nationale libre puisse exister, le peuple indonésien déclare par la présence son indépendance. Le 14 juillet 2004, l'ancien chef de la police nationale, le général à la retraite, Hugeng, est décédé. Hugeng Imam Santoso est le cinquième chef de la police nationale indonésienne. Il est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'ulcères à l'estomac et d'un accident vasculaire cérébral. Hugeng est connu comme un policier qui a une grande intégrité et propre. Pendant son mandat de chef de la police nationale, Hugeng a montré son engagement dans la lutte contre la corruption en demandant à tous les chefs de police régionaux et aux chefs de la sécurité portuaire d'enregistrer sa richesse. Citant par Merica.com, pendant son mandat de chef de la police nationale, Hugeng a également publié une politique de port de casque pour les utilisateurs de moto. Le règlement a été publié le 2 août 1971. La politique d'utilisation du casque émise par Hugeng est devenue la première politique concernant les procédures de sécurité pour les motocyclistes en Indonésie. Le 14 juillet 2011, le mont Lokon entrait en éruption. Le mont Lokon, dans le nord de Sulawesi, est entré en éruption le 14 juillet 2011 à minuit. L'éruption a été la plus grande d'une série d'éruptions volcaniques qui ont duré près d'un mois depuis que le volcan a montré des signes d'éruption le 18 juin 2011. Citant par Compass.com, l'éruption du mont Lokon a duré 1200 secondes, suivi de plus de 100 tremblements de terre volcanique dans le ventre de la montagne. L'éruption a envoyé des pluies de matériaux incandescents, de sable et de cendres jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Le gouvernement de la ville de Tomohon a noté qu'environ 10 000 habitants au pied de la montagne ont été forcés de fuir. Certains d'entre eux occupent des sites d'évacuation tenus par le gouvernement local de la ville. Certains habitants de plusieurs villages ont fui vers Tomohon ou Manado. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Tersampaikan dari tatapanmu banyak. yang bisa kau ceritakan. Kamu telah ku nanti dari lubuk hati. Aku takkan pergi sampai mati, tetap di sini.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est Zritak pour l'arbitre suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre... Le gouvernement indonésien invite un certain nombre de pays concernés à s'opposer à la mise en œuvre de l'EUDR. Le gouvernement indonésien invite un certain nombre de pays qui ont été touchés par la mise en œuvre du règlement sans déforestation de l'Union européenne, EUDR, à s'opposer à cette politique. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce, Zulkifli Hassan, lorsqu'il a été rencontré par Antara au complexe du palais présidentiel de Jakarta jeudi. Le ministre Zulkifli considère la politique comme discriminatoire car elle cible les produits des plantations exportées d'Indonésie qui doivent être garantis exempts de déforestation. Il a également déclaré qu'en Indonésie, riposterait, négocierait et inviterait les pays qui avaient quelque chose en commun comme la Malaisie. Pendant ce temps, le ministre de la Coordination de l'Économie, Erlangga Hartarto, a déclaré que les pertes potentielles de l'Indonésie dues à la mise en œuvre de la loi anti-déforestation de l'Union européenne sur la lutte contre la déforestation, EUDR, atteignaient 7 milliards de dollars américains. Erlangga a expliqué que la politique EUDR cible sept produits qui doivent être garantis exempts de déforestation, à savoir l'huile de palme, le caoutchouc, le café, le soja, le cacao, le bœuf et le bois, ainsi que leurs produits dérivés. Erlangga a estimé qu'avec une telle réglementation, l'Indonésie serait l'une des parties qui serait lésée. En fait, la politique EUDR tend à conduire à une discrimination écologique. L'EUDR met également en œuvre un système d'analyse comparative qui classe les pays en trois types, pays à faible risque, standard et à forte déforestation. Erlangga a également expliqué que la mise en œuvre de l'EUDR rendait la tâche difficile pour 15 à 17 millions de petits exploitants agricoles car ces produits devaient être vérifiés sur la base d'une diligence raisonnable. L'Indonésie a également proposé une mission conjointe avec la Malaisie pour former un groupe de travail pour mener des discussions et des études afin que la politique EUDR ne soit pas discriminatoire envers les parties prenantes et les petits exploitants. Le cadre politique de l'EUDR est depuis longtemps négocié au Parlement européen, mais vient d'être promulgué en avril 2023. L'EUDR vient d'être entré en vigueur depuis le 16 mai 2023. Cependant, l'Union européenne prévoit une période de transition pour que les grandes entreprises mettent en œuvre les nouvelles règles dans un délai de 18 mois, tandis que les petites entreprises bénéficient d'une phase de transition de 24 mois. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Lang Sekarang di vilas turistik ke Budobe Bijite los ke Bubayazi Ajuk Jakarta ila vilas turistik de Bukir Sari ila situi a Bukir Sari nang le desu distrik di Mogiri ang birong di 7 km du sang trabil de Jog Jakarta. Le vilas turistik et accessible par la route. Le village se concentre sur le développement de l'éco-tourisme et de l'écotourisme et depuis 2007, il a développé un potentiel important dans le secteur de l'économie créative, le sous-secteur de la mode, à savoir l'artisanat du batik dessiné à la main à travers le centre. Le village touristique de Bukir Sari est connu comme un village d'artisans en batik dessiné à la main. Vous pouvez venir apprendre et voir le processus de fabrication du batik. Selon le site web du réseau de villages touristiques du ministère du Tourisme et de l'économie créative, plus de 600 artisans du batik sont impliqués en tant que guide touristique du batik. Le tissu batik dans le village peut également être obtenu à un prix relativement moins cher. Le batik dessiné à la main n'est pas le seul type d'artisanat fabriqué par les habitants de Bukir Sari. Ils ont aussi un artisanat de cuir qui est aussi un artisanat héréditaire. Les résultats de ces métiers de cuir sont des marionnettes et autres ornements en cuir. De l'artisanat de la population locale qui est la principale attraction, la configuration géographique du village de Bukir Sari est également très diversifiée, allant des collines, des rivières, des forêts et des terres agricoles, ce qui rend ce village très beau. Ici, il y a des attractions naturelles dans la zone côtière de la rivière Opak. Dans ce village se trouvent également les tombes des rois de Pajimatan et de Sunan Giri Loyo, qui sont également des destinations de pèlerinage pour les touristes. Il existe également des visites économiques culturelles dans la zone du marché traditionnel de Sorjati. C'est Zuritok, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Thank you. kau dengan kalimat.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Indofest 2023. L'exposition d'activités de plein air Indofest 2023 se tiendra à nouveau du 1er au 4 juin 2023 à Istora Senayan, Jakarta. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Uno, a déclaré que le gouvernement apprécie vraiment les activités de Indofest 2023 parce que cet événement peut encourager l'industrie du tourisme de nature et d'aventure et contribuer à la préservation de la nature. Selon le ministre Sandiaga Uno, le tourisme d'aventure a un grand potentiel pour encourager les visites touristiques après la pandémie. Cette tendance continue d'augmenter avec la présence d'un marché de niche basé sur une variété d'attractions d'intérêt spécial. Cette opportunité doit être utilisée par les acteurs de l'industrie touristique indonésienne, notamment les voyageurs et les agents de voyage, pour rejoindre et promouvoir cette activité. Le directeur du tourisme d'intérêt spécial, M. Ito Parikesit, a déclaré que le tourisme d'aventure en Indonésie s'est développé rapidement, où la majorité des acteurs sont les individus, les micro et les petites entreprises. Les activités de tourisme d'aventure dans l'industrie du tourisme ont eu un impact sur le secteur économique qui peuvent être profitées par les communautés locales et encourageant les pratiques de tourisme durable. Pendant ce temps, le directeur général de Coast Event, Dishon Toba, a déclaré qu'il espère que Indosat 2023 pourra accroître le désir ainsi que la participation de la jeune génération à explorer les activités de plein air. La directrice générale Indofest 2023, Eva Fitri Yeni, a ajouté Indofest 2023 présentera divers produits de fabricants et distributeurs d'équipements pour les activités de plein air. Indofest 2023 sera également rempli de diverses autres activités intéressantes telles que talk show, des cliniques de coaching, d'activistes d'activités de plein air ainsi que des performances de musiciens tels que Fiersa Besari, Sugi Bornean et Rem Laude. Les personnes intéressées à venir peuvent obtenir des billets en ligne via l'application Indofest téléchargeable sur le Play Store ainsi que sur l'App Store. L'achat sur place reste également disponible. Cette année, il est prévu d'être fréquenté par 40 000 visiteurs. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice of Indonesia.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des cinq destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia, Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.